Vous écoutez KTO Radio, il est 14h. Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. La mutuelle d'inspiration chrétienne qui fête ses 75 ans.
À toutes et à tous, bienvenue sur KTO Télévision et KTO Radio pour la vie des diocèses où nous partons chaque semaine à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, direction le diocèse de Lyon qui comprend à la fois le département du Rhône, dont fait partie la métropole de Lyon bien sûr, et un arrondissement du département de la Loire autour de Roanne. Dans cette édition, on suivra une rencontre des nouvelles fraternités catéchuménales qui ont pour objectif de permettre à ceux qui reçoivent les sacrements de l'initiation chrétienne de mieux s'intégrer dans l'Église. Et on découvrira un nouveau mode de présence de prêtres dans des paroisses sans curé, le prêtre itinérant. Le département du Rhône reste un département dynamique qui bénéficie du deuxième PIB français après Paris, un département tiré par Lyon et sa métropole bien sûr. C'est un territoire marqué par des réalités variées entre plaines, collines viticoles et zones urbaines très denses. Et le diocèse de Lyon, vous le savez peut-être, est le plus ancien diocèse de France, marqué par les figures de Saint Potin, de Sainte Blandine ou bien encore de Saint Irénée. Pour parler du diocèse de Lyon, je reçois son archevêque, Monseigneur Olivier de Germay. Bonjour Monseigneur.
Bonjour.
Je viens de faire une rapide présentation du territoire dont vous avez la charge. C'est un diocèse qui est marqué par des sensibilités ecclésiales, des réalités très variées. Comment est-ce que vous pourriez nous le présenter en quelques mots pendant que s'affichent les chiffres clés de ce diocèse ?
Moi, ce qui me vient spontanément en parlant du diocèse de Lyon, c'est le dynamisme. C'est un diocèse qui est très dynamique. Effectivement, il y a une grande diversité, on insiste souvent là-dessus, c'est pas faux. Quand vous passez des paroisses de banlieue populaire, le centre-ville, l'ouest lyonnais, le rural, c'est assez différent. Mais ce qui me marque, c'est qu'un peu partout, il y a un beau dynamisme, une belle créativité, et en particulier une créativité missionnaire. Donc c'est super.
On va découvrir ça avec vous. Quelques dates peut-être pour rappeler, mieux connaître votre parcours, Monseigneur Olivier de Germay. Vous êtes donc archevêque de Lyon depuis 2020. Né en 1960 à Tours, en Indre-et-Loire, vous avez été officier parachutiste avant d'entrer au séminaire et d'être ordonné prêtre pour le diocèse de Toulouse en 1998. En plus de vos charges de vicaire ou de curé, vous avez notamment été professeur de théologie sacramentale et de la famille à l'Institut catholique de Toulouse de 2008 à 2012. Et 2012, c'est l'année justement où vous avez été ordonné évêque pour le diocèse d'Ajaccio en Corse. Vous êtes donc resté en 2020. Je mentionne votre devise épiscopale qui vient de la lettre aux Éphésiens au chapitre 5. Le Christ a aimé l'Église. L'Église, bien sûr, on va en parler. Vous êtes dans un diocèse marqué par le catholicisme social avec des figures célèbres comme Frédéric Ozanam ou Pauline Jaricot. Comment est-ce que vous avez accueilli l'élection de notre nouveau pape, Léon XIV, qui a choisi son nom en référence à Léon XIII et à sa première encyclique sociale ?
Alors, effectivement, c'est quelque chose qui a beaucoup marqué à Lyon, parce que, comme vous l'avez dit, c'est un diocèse qui a eu une longue tradition de ce catholicisme social, et donc cette attention aux différentes formes de pauvreté. Il faut aussi souligner que ce catholicisme social, il existe aussi grâce à un certain nombre de personnes, de familles, parfois aisées, mais qui ont aussi cette tradition de soutenir l'Église dans cette dimension de sa mission. Donc c'est quelque chose de très beau. Effectivement, le pape, tout de suite, on a dit, avec son nom, il fait référence à Léon XIII, qui a fait face finalement au défi de la révolution industrielle. Et je crois que le pape Léon a bien compris qu'aujourd'hui, il y avait quelque chose qui était un peu du même ordre. C'est pas la révolution industrielle, c'est plutôt la révolution numérique. Mais ça pose aussi de grandes questions à l'Église et au monde. Et il faut prendre ça en compte pour l'évangélisation.
On est dans une année jubilaire sous le signe de l'espérance et ces dernières semaines vous avez participé à deux pèlerinages diocésains importants, à Rome justement pour le jubilé et puis à Lourdes. Comment est-ce que ces rencontres avec les diocésains sont l'occasion de renforcer l'espérance des baptisés ? On va voir quelques images.
Alors, il y a eu le pèlerinage diocésain, effectivement, à Lourdes, avec un nombre tout de même restreint de pèlerins. Mais personnellement, j'ai toujours aimé le pèlerinage parce que c'est vraiment l'occasion de sortir de sa routine quotidienne et de vivre une expérience spirituelle forte. Ça a été vraiment très beau à Rome. On était entre deux, puisqu'il y a eu, juste avant, il y a eu les obsèques du pape François et il n'y avait pas encore eu l'élection du pape Léon. Donc il y avait une espèce d'entre deux, mais c'était un très beau moment. Et j'étais très marqué, je dois dire, par le pèlerinage diocésain à Lourdes. Là, c'est un autre format, puisqu'il y avait 2400 pèlerins, dont 945 jeunes. Et je trouve que c'est vraiment une formule qui marche bien, avec ce brassage des générations et les jeunes qui participent au pèlerinage à Lourdes, qui sont au service des personnes malades, souvent des personnes âgées, ils en reviennent transformés. C'est ça qui est très beau, c'est qu'à la fois transformés par le service, par ce contact avec des personnes qui vivent parfois des choses difficiles, et puis il y a la grâce de Lourdes, et puis il y a ce que les jeunes vivent entre eux, il y a des veillées de prière, ou pour certains, parce qu'il ne faut pas croire que ce soit que des jeunes hyper cathos qui viennent. Il y a des jeunes qui ont parfois un peu décroché par rapport à la foi, même certains qui ne sont pas baptisés. Ils rentrent de Lourdes, ils sont boostés, vraiment. Et c'est vraiment très beau à voir.
Alors à Lyon, comme partout en France, le nombre de jeunes et d'adultes qui demandent le baptême ne cesse d'augmenter. Les fraternités catéchuménales ont justement pour objectif de permettre à chacun de mieux s'intégrer dans l'Église. Certaines paroisses du diocèse ont d'ores et déjà commencé le parcours. C'est le cas de la paroisse Sainte-Blandine du Fleuve, dans le sud-ouest de Lyon, qui a lancé des fraternités catéchuménales en octobre dernier. Notre journaliste Anne-Chantal Giraud a participé à l'une de ces rencontres mensuelles il y a tout juste quelques jours.
C'est un trajet que Delphine a l'habitude d'emprunter tous les mois depuis un an.
Je me rends à mon assemblée catéchuménale.
Néophyte, cette jeune mère de famille est fraîchement confirmée depuis la Pentecôte, mais elle continue de participer aux rencontres.
Les fraternités catéchuménales, elles m'ont beaucoup aidée dans mon parcours parce que déjà, j'ai fait de belles rencontres. C'est le côté humain, il y a un côté qui est vraiment humain et hyper fraternel. Parce que l'Église, forcément, ce n'est pas que des apprentissages, c'est une famille.
Bonsoir,
François.
Bienvenue.
Ça va?
Bienvenue.
François Ventilque, qui assure le lien avec la paroisse pour l'initiation chrétienne des adultes, a lancé ses fraternités avec le curé en octobre dernier.
Nous avons constitué des groupes qui se veulent dynamiques, qui sont constitués en moyenne de 7 à 8 personnes. Alors ça a été un changement important déjà dans le déroulement de notre accompagnement, puisqu'on est passé d'un accompagnement purement individuel à un accompagnement mixte, à la fois individuel et en fraternité.
Des fraternités qui rassemblent une diversité d'âge et de profils.
C'est la première fois que je suis là aujourd'hui. C'est ma première pour ma préparation de la confirmation.
Ça fait un an et trois mois à peu près que j'ai commencé mon chemin.
Alors je suis animateur d'une fraternité.
Après les retrouvailles autour d'un petit dîner convivial, la soirée peut commencer. Delphine est invitée à partager ce qu'elle a vécu il y a quelques semaines pour sa confirmation.
J'ai pris le temps de me préparer suffisamment pour accueillir ce sacrement. Merci à vous tous surtout. Parce que les uns sans les autres, je crois qu'on n'aurait pas le même chemin et on ne peut pas vivre la foi tout seul.
Ce soir, les fraternités partagent autour du thème de l'Esprit-Saint à partir d'un livret support proposé par la Conférence des évêques de France.
Quelle force intérieure j'ai ? Quelle force intérieure qui me pousse à aller de l'avant ?
On part toujours des témoignages de vie complètement déconnectés de la religion, de Dieu, de la foi. La deuxième partie, c'est que j'amène cette question avec la foi chrétienne, toujours à partir de la parole.
Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu,
qui se partagent. Catéchumène, confirmant, accompagnateur, pour chacun, c'est un moment enrichissant.
Ça m'apporte beaucoup de joie de faire cette démarche. Avant, j'étais peut-être un peu seule.
Et nous, en tant qu'accompagnateurs, ça nous oblige à faire un discernement, à essayer d'être un peu plus clair sur notre propre parcours.
Partager sa foi aussi permet, je pense, de peut-être faire développer la foi des autres.
Devant l'augmentation des demandes, une quatrième fraternité catéchuménale doit ouvrir à la rentrée, cette fois-ci spécifiquement dédiée aux jeunes.
Alors, on l'a vu à travers ces reportages, hein, les fraternités catéchuménales, elles concernent à la fois des paroissiens, ceux qui se préparent au sacrement. C'est une façon de répondre à ce défi de l'intégration et aussi de la transformation de la paroisse ?
Ça a beaucoup de vertus, en fait, les fraternités catéchuménales, parce que moi, j'ai écrit cette orientation il y a bientôt 2 ans. Rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait, cet afflux de catéchumènes qui arrivait, mais il ne suffit pas d'avoir des catéchumènes, il faut en faire des disciples. Mmh. Et l'accompagnement individuel, il se vit des belles choses, mais c'est largement insuffisant. Et donc, la fraternité, bien sûr, c'est un lieu déjà de fraternité, comme le nom l'indique, c'est-à-dire d'incorporation. Parce que sinon, si on attend le baptême pour se demander qu'est-ce qu'on va faire pour les garder, c'est trop tard. Donc c'est avant qu'ils doivent être incorporés dans une cellule d'église. C'est leur première église, si vous voulez, pour eux. Et puis, c'est un lieu aussi de croissance. On va apprendre. Il ne s'agit pas simplement d'étudier la parole de Dieu, même si c'est très important, bien sûr, mais apprendre à prier. C'est un lieu d'initiation. On va apprendre à prier, on va être initié à la liturgie, on va être initié au service des pauvres. Il y a des fraternités qui vont faire des maraudes, par exemple. Oui. On va être initié à faire le lien entre sa foi et sa vie de tous les jours. Bon, donc, c'est vraiment un lieu de croissance. Et comme l'idée, c'est que cette fraternité, il y a un brassage. Il peut y avoir des catéchumènes, il peut y avoir des néophytes. Il faut qu'il y ait des paroissiens, entre guillemets, lambda. Et du coup, c'est un cercle vertueux parce que ces paroissiens lambda qui ont parfois, finalement, qui viennent à la messe, et en fait, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas formés. Et du coup, ça les oblige à se former. Donc, c'est vraiment gagnant-gagnant. Et ça, de fait, ça modifie le visage, le profil de nos communautés. D'abord parce que c'est catéchumènes, ils arrivent de tous les milieux sociaux, mais aussi parce que ça booste, si vous voulez, les paroissiens lambda, ça les aide à redécouvrir ce dynamisme missionnaire.
La notion de fraternité, elle semble au cœur de votre action pastorale, puisque vous avez aussi lancé en septembre de l'année dernière, septembre 2024, les fraternités missionnaires. Pourquoi est-ce que c'est le fil rouge pour vous de la vie chrétienne ?
En fait, les choses se sont faites naturellement, puisque précisément, pour avoir des fraternités catéchuménales, on s'est aperçu qu'on avait besoin de paroissiens. Et comme le nombre de catéchumènes ne cesse d'augmenter, les prêtres ils sont venus me voir en me disant « mais non, on n'y arrive plus ». Je dis « c'est toute la paroisse qui doit se sentir concernée ». Donc moi, j'ai dit, au fond, j'ai lancé un peu un appel à la mobilisation générale en disant « mais tout le monde en fraternité ». Bon, c'est pas forcément possible pour tout le monde, mais vous voyez ce que je veux dire. Il faut vraiment que l'ensemble
Et ça répond, parce qu'on l'entend beaucoup dans les diocèses, mais est-ce que les catholiques réussissent à rentrer dans cette conversion de la fraternité ?
Moi, je vois que ça répond, oui. Suivant les paroisses, bien sûr, ça va demander plus ou moins de temps. Mais on voit vraiment des gens qui se lancent dans cette aventure, qui se forment. Alors, soit pour être dans une fraternité catéchuménale, soit dans une fraternité tout court, mais qui va être une fraternité missionnaire. Parce que ça fait longtemps que dans l'Église, il existe des petits groupes de gens qui se connaissent, et ces petits groupes ont beaucoup de vertus. Parfois, ça tourne un peu en rond. Mmh. Là, l'idée, c'est de se dire, il faut aussi que ça soit le lieu où on se forme pour la mission. Est-ce que je suis capable de répondre à mon voisin ? Puisqu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui se posent des questions sur la foi. Bon, et s'ils me posent des questions sur ma foi chrétienne, est-ce que je suis capable de dire comment le Christ est présent dans ma vie ? Quelles sont les merveilles qu'il a fait dans ma vie ? Donc tout ça, c'est ça demande une formation et c'est un des buts de ces fraternités missionnaires.
On voit aussi que le témoignage dans l'espace public, finalement, prend un peu plus de place. Il y a évidemment la fête des Lumières où l'Église catholique à Lyon est très engagée. Je pense aussi à la marche pour Jésus qui a eu lieu fin mai à Lyon, où des chrétiens de différentes confessions se sont rassemblés, mais c'est un rassemblement au départ de protestants évangéliques. Quel bilan est-ce que vous faites de cette participation au sein de cette équipe œcuménique ?
Alors, c'était un peu une première, et je dois dire que ça s'est réalisé en particulier grâce à un prêtre qui était très motivé pour ça, et qui a cette fibre de l'évangélisation des milieux populaires. Il faut bien reconnaître que parfois on est un peu à la traîne dans ces milieux-là, et c'était très beau parce que d'abord, effectivement, c'est une activité œcuménique. On a pu voir des pasteurs qu'on ne voit jamais, parce qu'il y a certains pasteurs, y compris évangéliques, qu'on voit régulièrement, puis d'autres qu'on ne voit jamais. Donc, de ce point de vue-là, c'était pas mal. Et puis, c'était quand même beau de voir tous ces jeunes qui défilent paisiblement dans la joie pour annoncer le nom de Jésus. Pour moi, ça fait partie de ces signes qu'on voit en ce moment qui montrent qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a vraiment quelque chose qui se passe dans le diocèse de Lyon, plus largement en France, et d'après ce que je crois, aussi dans d'autres pays européens, où on assiste quand même à un certain réveil missionnaire. Et moi, j'y vois d'abord le doigt de Dieu. C'est vraiment, il y a le Seigneur qui est en train de faire des choses. Et souvent, je dis à mes collaborateurs, peut-être nous, avant de réfléchir à ce qu'il faut faire, essayons de dire qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire là, pour essayer de nous mettre à son service et pas l'inverse.
Dans le discernement justement en cours, face à la baisse du nombre de prêtres dans le diocèse, il y a un nouveau mode de présence qui est expérimenté dans deux paroisses du nord du département, Saint-Joseph d'Azergues et Notre-Dame du Haut-Beaujolais, qui sont sans curé depuis un an. C'est un prêtre itinérant qui vient visiter ces paroisses 3 jours par mois pour soutenir et accompagner les chrétiens répartis sur 22 clochers. Et le reste du temps, les activités de la paroisse sont supervisées par une laïque en mission ecclésiale. Une collaboration prêtre-laïque que nous explique Patricia Carrette, coordinatrice des deux paroisses, et le père Vincent Charmé, vicaire de la paroisse Saint-Augustin en Beaujolais et prêtre itinérant.
Quand je suis arrivé, il y avait certains paroissiens qui exprimaient une inquiétude, voire même un peu une colère contre le diocèse par remplacer le curé. Pour autant, je vois que durant toute l'année, les paroissiens me réservent un accueil très chaleureux. Et alors quand je suis ici, je célèbre des messes, je visite des personnes, on le fait même tous les deux souvent. Je prépare des baptêmes, il y a la préparation aussi au mariage. Enfin, j'ai la vie d'un vicaire habituel.
Moi, je suis censée encadrer la catéchèse, les catéchistes, et coordonner effectivement les informations, la communication, essayer d'appeler des gens depuis les niveaux matériels jusqu'au niveau peut-être liturgie, préparation, mariage, baptême.
La collaboration prêtre-laïque, elle est très féconde parce que Patricia, en fait, connaît tout le monde. Elle est sur la paroisse depuis 30 ans, donc elle connaît tout le monde. En fait, tu m'as aidé très facilement à m'intégrer. Ce qu'on organise, c'est aussi une fois tous les 2 mois, le samedi, quand je suis là, on fait une journée fraternelle pour essayer de rassembler la communauté.
Ça permet aussi aux gens de se sentir peut-être moins orphelins, parce que les gens sont très, très attachés à la figure du prêtre. Ça nous fait réfléchir comment nous, on peut se saisir de notre mission de baptiser.
On a fait cette année 3 jours de mission. On a déjà vu une personne ou l'autre que ça a un petit peu remis en chemin. En fait, je crois que c'est ça l'enjeu, hein. C'est vraiment la baisse des prêtres fait qu'il faut que chacun se réapproprie son baptême pour en être disciple missionnaire.
C'est une chance, mais nous voulons nous laisser la chance aussi d'avoir des prêtres itinérants qui viennent nous visiter et nous accompagner.
C'est un témoignage vraiment intéressant. Quel premier bilan est-ce que vous faites de cette expérience, sachant, on l'a entendu, que ce prêtre n'est pas présent le dimanche, justement?
Oui, alors c'est une expérience, donc on est dans les débuts, hein, il faut être modeste. Et si vous voulez, l'idée, l'intuition de départ, c'est de dire, la tentation qu'on a, on voit bien que le nombre de prêtres diminue encore, hein, même si on espère bien, là aussi, qu'il y a un réveil des vocations, c'est de dire, on va être moins nombreux, on va répartir nos forces sur le terrain, et puis le risque, c'est de faire des soins palliatifs, quoi. Or, les soins palliatifs, c'est bien pour un mourant, mais l'Église, c'est pas un mourant. Donc, il faut faire autre chose. Donc là, il n'y a pas de curé, c'est une réalité. Bon, OK, il n'y a pas de curé, il y a bien sûr un administrateur... Qui supervise un peu tout ça, mais l'idée c'est de faire une sorte de un peu de choc pour dire aux gens, bon, maintenant il faut se réveiller, on n'a pas de prêtres, mais l'Église c'est pas que les prêtres, il y a une autre façon de vivre notre vie chrétienne. Il faut que bien sûr on a besoin de prêtres, mais il faut que les baptisés se réveillent un peu, se réapproprient leur foi et soient missionnaires. Donc il y a un prêtre qui vient de temps en temps, si possible avec une équipe, pour faire un peu des missions, un peu d'évangélisation, pour animer un certain nombre de choses, mais il faut que parallèlement, sinon ça ne marchera pas, on veut là aussi susciter des fraternités pour que dans les villages, les gens prennent en compte, soient capables d'ouvrir l'église, d'organiser un temps de partage de la parole, un temps de prière, aller visiter les malades et aussi aller voir les gens et témoigner de leur foi. Donc c'est un peu ça l'idée, c'est de faire du neuf avec ce qu'on a et en espérant que... ensuite, les choses puissent renaître et puis qu'il y ait des vocations.
Je voudrais revenir sur une réalité un peu plus douloureuse qui concerne aussi votre diocèse, les vitraux réalisés par Louis Ribes, un prêtre artiste né et mort dans la Loire, surnommé le Picasso des églises. Plusieurs dizaines de personnes se sont faites connaître et ont témoigné avoir subi des agressions sexuelles lorsqu'elles étaient enfants, à partir des années 70, dans les départements de la Loire, du Rhône et de l'Isère, notamment pendant des séances de pause, où il leur demandait de poser nus. Est-ce que tous les vitraux qu'il avait réalisés et qui étaient dans des églises, notamment du diocèse de Lyon, ont été déposés, ont été retirés ?
Alors, effectivement, nous avons fait ce choix et je crois que c'est pas quelque chose de théorique parce que les situations peuvent être diverses. Dans cette situation, nous avons fait le choix de retirer ces vitraux qui avaient été réalisés, qui étaient le prétexte pour abuser d'enfants, oui. Leur réalisation. Et donc, nous avons fait le choix de tous les retirer. Donc, actuellement, c'est fait. Il reste, je crois, un lieu où, pour des raisons techniques, ce n'est pas encore fait, mais ça va être fait dans les semaines qui viennent. Oui.
Peut-être une dernière question sur votre diocèse, qui a une grande tradition de dialogue interreligieux, notamment avec les communautés juives et musulmanes. On connaît le contexte actuel, les tensions très fortes dues notamment à l'actualité au Proche et Moyen-Orient. Qu'est-ce que vous avez envie de dire comme archevêque de Lyon? Qu'est-ce qu'on peut construire ensemble aujourd'hui?
Alors, c'est vrai que les relations sont... Il y a cette tradition à Lyon, ça c'est très clair. Et entre responsables, on se connaît, on s'apprécie, on se respecte. Il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, entre les religieux, les responsables musulmans, responsables juifs, c'est un peu tendu, on peut le comprendre. D'ailleurs, nous avons un peu un rôle parfois un peu de médiateur. Cela dit, on continue à avancer. Il y a des belles initiatives. Il y a eu, il n'y a pas très longtemps, une marche pour la paix à Villeurbanne entre juifs, chrétiens et musulmans. Donc, il y a quand même des choses qui se font. Moi, je crois qu'il ne faut vraiment pas renoncer à ce dialogue. On a vraiment quelque chose à dire. Vous voyez bien que nous sommes dans un monde où il y a une espèce d'engrenage de la violence, là, cet engrenage absurde de la violence, et je crois que nous devons avoir ça en commun dans les différentes religions, de dire stop, il faut arrêter cet engrenage, et c'est pas avec des bombes qu'on va faire la paix, et qu'il faut arriver à se parler, et on n'est pas fait pour s'entretuer, mais on est fait pour vivre ensemble et pour s'aimer les uns les autres, donc je crois qu'on a vraiment quelque chose à dire.
Merci Monseigneur Olivier de Germay, on va passer maintenant à la séquence des questions de terrain. Et on a une première question de Marie-Simone, qui habite Villeurbanne, qui est une retraitée engagée bénévolement dans de nombreux lieux d'église.
Les réfugiés qui arrivent, est-ce qu'ils ont leur place dans le bénévolat? Parce qu'ils n'ont pas de papier, ils n'ont pas de toit, ils sont en attente de la régularisation. Est-ce qu'on peut les accueillir? Comment ça se passe?
Alors oui, dans le diocèse, nous avons cette expérience, je dirais, d'accueil des migrants. Ça a été le cas d'ailleurs les deux dernières années de façon un peu particulière. Comme bénévole, je pense qu'il n'y a pas de problème. C'est plus compliqué, ça serait plus compliqué pour être salarié. Mais comme bénévole, je crois que tout le monde est bienvenu pour s'associer à notre œuvre commune. Oui.
On a une autre question de Georges qui voudrait poser une question au nom de toute la communauté lusophone de langue portugaise, donc qui habite Lyon.
On voudrait savoir de quelle façon on pourrait un petit peu, ou même beaucoup, compter sur le diocèse de Lyon pour faire en sorte que ces communautés lusophones puissent avoir quelqu'un qui les organise, qui puisse nous donner une certaine direction pour vivre la foi pleinement. Merci beaucoup.
Alors, je dirais qu'effectivement, la communauté portugaise, elle est importante à Lyon, et puis elle apporte quelque chose, je crois. Ce sont des gens qui ont une foi qui est assez vive. On essaye de faire en sorte qu'il y ait des prêtres qui parlent portugais ou qui sont portugais, qui puissent célébrer des messes. Après, je dirais, il y a toujours un équilibre à trouver pour ces communautés nationales, d'être à la fois, d'avoir des moments où ils peuvent se retrouver entre eux, puis aussi de s'intégrer. Ils sont aussi dans un diocèse de France. Il faut aussi qu'ils puissent s'intégrer. Donc, je pense qu'il y a un équilibre à trouver, mais on a bien ce souci en tête, oui.
Et on a une dernière question d'Isabelle de la paroisse de la Rédemption Saint-Joseph.
Bonjour Monseigneur. En fait, j'aimerais savoir comment le choix est fait de mettre un ou plusieurs prêtres dans telle ou telle église de Lyon. Et à côté de ça, quelquefois à la campagne, il y a un seul prêtre pour de nombreux clochers. Voilà comment vous faites ce choix-là. Merci.
Alors les nominations, c'est vraiment le casse-tête pour un évêque et pour ses collaborateurs, puisqu'il y a de moins en moins de prêtres. Les gens ont parfois l'impression que le rural est un peu délaissé et qu'il y a moins de prêtres en rural. En fait, c'est surtout parce que la densité de population est différente. Proportionnellement, je pense qu'il y a plus de prêtres dans le rural qu'en ville. Parce qu'en ville, une paroisse peut avoir 50, 60, 80 000 habitants. Là aussi, il y a une question d'équilibre à trouver, c'est pas si simple. Mais en tout cas, notre souci, c'est de faire en sorte que les fidèles puissent avoir les prêtres dont ils ont besoin.
Merci, Monseigneur Olivier de Germay. Une dernière question à la fin de cette émission. Est-ce qu'il y a peut-être tel ou tel rendez-vous que vous avez envie de lancer à ceux du diocèse de Lyon qui nous regardent dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois?
Alors là, on arrive à l'été, donc... c'est un diocèse, vous savez, avant j'étais en Corse, l'été il y avait beaucoup d'activités, c'est un peu différent. À Lyon, il y a pas mal de choses de la vie ordinaire de l'Église.
Il s'arrête,
donc c'est un peu... Et puis je crois qu'on a tous besoin d'un petit peu de repos. Moi, le
vous-même,
premier.
Vous allez pouvoir vous reposer?
Oui, mais je vais partir un peu au mois d'août, mais pas encore. Là, je pars demain à Rome pour le jubilé des évêques,
oui. Hein,
parce que nous aussi, les évêques, nous avons besoin de vivre cette démarche jubilaire. Mais ensuite, si j'avais un appel à lancer aux gens, c'est de s'émerveiller devant ce que le Seigneur est en train de faire aujourd'hui. Et parce que je vois parfois des gens qui se découragent un peu, on voit ce qui ne va pas. Il y a vraiment de belles choses en ce moment. Ça doit nous encourager à nous former, d'abord à approfondir notre relation au Christ et apprendre à être missionnaire, pas tout seul, avec d'autres. Et je crois que nous ne serons pas déçus, nous allons voir de belles choses dans les mois et dans les années à venir.
Merci beaucoup, Mgr Olivier de Germay, d'être venu sur le plateau de la vie des diocèses. Pour en savoir plus sur le diocèse de Lyon, rendez-vous sur le site internet lyon.catholique.fr. Cette émission est bien sûr à retrouver sur ktotv.com. Merci à chacun d'entre vous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.
Écoutez KTO Radio partout en France sur le DAB+ et dans le monde entier sur Internet. KTO Radio.
Bien des chrétiens passent à côté du Sacré-Cœur sans le voir. Ils n'y trouvent qu'une dévotion un peu surannée et même poussiéreuse, une survivance sulpicienne du XIXe siècle, avec des images exagérément sentimentales, parfois sanglantes, et des églises disproportionnées. Je reconnais que j'ai été de ceux-là, trouvant l'intériorité et l'action sociale ou écologique de bien meilleures expressions de la foi moderne, sans comprendre que le Sacré-Cœur était tout cela et plus encore. Sa devanture, que je ne trouvais pas toujours du meilleur goût, portait au contraire un message essentiel, intime et cosmique à la fois, touchant la place et le rôle de chaque personne dans la création. Il m'a fallu accomplir une sorte de pèlerinage à la rencontre de ceux qui vivent dans l'intimité de ce cœur de Jésus et de Marie, qui vivent en union avec lui, pour combler mon ignorance sur le seul sujet qui compte pour un chrétien, l'amour de Dieu envers l'homme. Découvrir que « Sacré-Cœur » est le nom de code d'un message adressé au monde est sans doute, pour qui croit en Jésus-Christ, le plus important et le plus urgent qui soit. J'ai commencé ce voyage spirituel à Paray-le-Monial pour l'ouverture du jubilé des 350 ans de la première apparition de Jésus à Sainte Marguerite-Marie. Petite cité bourguignonne s'était un peu assoupie en même temps que la dévotion au Sacré-Cœur en France, jusqu'à ce que l'animation du sanctuaire soit confiée à la communauté charismatique de l'Emmanuel en 1986. Son fondateur, Pierre Goursat, repose dans le cimetière qui surplombe la ville des Apparitions, où au XVIIe siècle, Jésus-Christ se révéla à une jeune religieuse de la Visitation, Marguerite-Marie Alacoque.
Décembre 1673, Marguerite Marie est recueillie dans la chapelle, c'est le jour de Saint Jean, et elle est en présence du cœur de Jésus. Elle n'utilise pas le mot d'apparition, mais le Seigneur se présenta à moi. Elle va reposer sur le cœur de Jésus. Dans une de ses lettres, elle dira qu'elle y reposa de longues heures. Et puis le Seigneur lui déclare son amour. Mon divin cœur est si passionné d'amour pour tous les hommes et pour toi en particulier. Ensuite, elle a la vision du cœur de Jésus surmonté d'une croix sur un trône de flammes entouré d'épines. Et Jésus lui dit « Si tu savais comme j'ai soif, je brûle du désir d'être aimé. » Il me demanda mon cœur, je le suppliais de le prendre. Alors Jésus prend son cœur de sa poitrine, le plonge dans le sien. Marguerite Marie dit « Il était comme un petit atome dans une fournaise ardente, d'où il le retira une flamme en forme de cœur qu'il me remit dans la poitrine. »
Marguerite Marie recevra des messages douloureux du Christ, dont celui-ci. « Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, qu'il n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consommer pour leur témoigner son amour. » Et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes par leurs irrévérences et leurs sacrilèges et par les froideurs et mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour. Jésus demandera à la jeune femme de faire connaître la dévotion au Sacré-Cœur ainsi que d'obtenir son inscription dans la liturgie catholique. Le moment historique de ces messages miraculeux est celui du sommet du règne de Louis XIV, le roi soleil qui réclamait la vénération universelle. La France semble témoigner alors d'une belle santé spirituelle, mais des nuages se forment dans son ciel avec le courant janséniste qui offre de Dieu un visage sévère. Dans cette vision tragique du salut influencée par le calvinisme, les hommes sont destinés avant leur naissance au salut ou à la perdition. Les apparitions se produisent pourtant à la fin d'un siècle qui a vu naître l'école française de spiritualité autour de personnalités et de saints remarquables, relisant le message évangélique à la lumière du mystère de l'incarnation.
La pierre d'achoppement, c'est cet homme et Dieu. C'est ça en fait la profession de foi minimale. Cet homme est Dieu, voilà. De reconnaître que Jésus-Christ est la présence de Dieu, l'image du Dieu invisible, dit Paul. Mais là où intellectuellement, où il y a quelque chose qui tape là, qui achoppe, c'est Dieu devenu l'un de nous. Et du coup, le cœur de Jésus dit l'incarnation. Et ça dit que Dieu nous a aimés divinement avec ce cœur humain. C'est ça qui fait la difficulté quand même.
Cette spiritualité qui insiste sur l'incarnation et dont saint Vincent de Paul fut un représentant éminent avait été inspirée par le cardinal de Bérulle et par saint François de Sales qui, avec sainte Jeanne de Chantal, avait fondé l'ordre des Sœurs de la Visitation auquel appartenait Marguerite Marie.
Leur intention était de donner à Dieu des filles d'oraison et des âmes intérieures qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité. Ils souhaitaient aussi que nous soyons filles du cœur de Jésus, que nous cherchions à vivre le plus possible les deux vertus du cœur de Jésus, la douceur et l'humilité, puisque Jésus a dit « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur ». Et en fait, ce que Jésus est venu dire à Paray-le-Monial n'a fait que déployer ce qui existait dès l'origine dans la spiritualité de notre ordre.
Les apparitions de Paray-le-Monial marquent-elles une nouveauté dans la religion catholique ou une inflexion dans la sensibilité des fidèles ?
La révélation publique, elle est close à la mort du dernier apôtre. Donc Dieu, en Jésus, nous a dit tout ce qu'il voulait nous dire, tout ce qu'il pouvait nous dire, tout ce que nous sommes capables d'entendre. Et donc il n'a rien à ajouter à cela, mais il vient nous réveiller, nous aider à comprendre tel ou tel aspect du mystère, en particulier le cœur de Jésus. Et je crois qu'à chaque époque, le Seigneur envoie des prophètes, des messagers, pour non pas ajouter quelque chose à ce qu'il nous a dit en Jésus, mais pour nous faire comprendre davantage une des facettes innombrables du mystère de Jésus.
Alors que nous nous apprêtons à vivre une célébration historique qui marquera l'ouverture du jubilé des 350 ans, nous avons comme l'intuition que ce sanctuaire entre symboliquement dans une nouvelle étape de son histoire.
Il n'y a rien de nouveau, à strictement parler, dans le message contenu dans les apparitions et les événements de Paray-le-Monial. Finalement, ce n'est qu'un approfondissement de l'Évangile, notamment de l'Évangile selon saint Jean. Et le message de Paray ne fait que déployer et nous aider à entrer dans ce qui est déjà contenu dans l'Écriture et dans la tradition de l'Église.
Ça s'est déployé progressivement dans l'Église sous l'impulsion de l'Esprit-Saint. Mais il y a eu un moment charnière au Moyen-Âge, et notamment au XIIe siècle, l'émergence de ce qu'on pourrait appeler une civilisation de l'amour, sous le signe de l'amour nuptial du cœur de Jésus pour son Église, à l'ombre des cloîtres. Or, ce qui s'est développé à l'ombre des cloîtres, c'est la spiritualité du Cantique des Cantiques, qui voit dans le bien-aimé du Cantique le Christ dans sa passion, qui est blessé d'amour par et pour l'Église, son épouse.
Le Cantique des Cantiques, livre poétique de l'Ancien Testament, chante à deux voix l'amour autant spirituel que charnel de deux jeunes amants.
Le bien-aimé dit à sa bien-aimée : « Tu as blessé mon cœur, ô ma bien-aimée, par un seul de tes regards. » Dans la lecture qu'en ont faite les moines, et en particulier saint Bernard dans son commentaire au XIIe siècle, les blessures du Christ sont pas non pas d'abord le signe de notre péché et de l'offense que nous faisons à Dieu, mais d'abord le signe de son amour pour l'Église, son épouse. Et il a cette formule célèbre, comment l'amour ne serait-il pas aimé ?
Se produit alors la rencontre de cette culture monastique avec celle profane des troubadours et de l'amour courtois, où la femme, jusqu'alors soumise à l'homme, devient un objet d'amour idéal.
S'est déployée à travers ce croisement entre la mystique et la culture, eh bien, une civilisation de l'amour, ou plus exactement, de l'amour avec un grand A, qui est le Christ en croix donnant sa vie pour l'Église. Et le vocable de Notre-Dame vient de cette culture-là. C'est Saint Bernard qui l'a popularisé et qui a fait que toutes les cathédrales dédiées à la Vierge Marie ont été rebaptisées. Mais au fond, c'est probablement ce que la France a donné de meilleur au monde.
Au XIIIe siècle, une religieuse cistercienne, Gertrude de Hefta, après avoir vainement cherché la paix intérieure dans les livres, fait une expérience mystique au cours de laquelle l'apôtre Jean l'a conduite à reposer sur la poitrine de Jésus et à entendre les battements de son cœur comme il l'avait fait lui-même durant la dernière scène.
Et elle s'exclame, mais pourquoi ai-je ce bénéfice? Tout le monde devrait pouvoir bénéficier d'une telle expérience. Et alors, l'évangéliste Jean qui lui répond, mais ce trésor qui t'est manifesté, il est accessible à tous. Si vous regardez avec précision ce qui est présent dans l'Écriture, tout est déjà là. Mais viendra un temps futur, des temps refroidis, où il faudra effectivement le rappeler de manière un peu plus vive à tous. Et c'est effectivement, on pourrait dire, un peu 300 ans avant, l'événement annonciateur de Paray-le-Monial.
Vous êtes à la suite, nous sommes à la suite, cela vient nous rejoindre.
Les révélations de Paray-le-Monial semblent avoir été préparées dans les années qui les ont précédées par l'effort spirituel d'un grand esprit de l'école française de spiritualité, Saint Jean Eudes, qui le premier avait conçu l'importance de célébrer un culte particulier en l'honneur du cœur de Jésus et de Marie.
Voilà, le cœur, à la fois comme la source de la vie. Ça, c'est très important à comprendre parce que ça a forcément un lien avec ce qui va être dit à la suite. Quand on est amoureux, ça fait battre le cœur un peu plus vite, non? Non, jamais?
Mais...
Même amoureux du Seigneur. Mais c'est forcément, c'est que l'amour lui-même se ressent.
Saint Jean-Eudes a eu, je pense, l'intuition divine, c'est ce que dit d'ailleurs la canonisation, de créer une fête en l'honneur du cœur de Jésus. Et puis, il y a eu toute une maturation théologique, spirituelle qui s'est faite. Et donc, en 1672, il a célébré pour la première fois dans l'Église une messe en l'honneur du cœur de Jésus. Il y a eu l'année suivante les apparitions de Paray-le-Monial. Comme beaucoup dans l'histoire de l'Église, d'ailleurs, il y a souvent une approche théologique et après une approche mystique qui viennent se compléter.
Saint Jean Eudes présente le cœur de Jésus comme fornax amoris, une fournaise d'amour. Voilà. Et donc, c'est pas du sentimentalisme, c'est simplement que Jésus, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Sur la croix, Jésus a son cœur transpercé par la lance du soldat. Il en jaillit de l'eau et du sang et c'est l'Église qui est née de cet amour de Dieu pour nous, révélé en Jésus.
Qui fut Marguerite Marie? Les sœurs visitandines, qui vivent aujourd'hui dans le couvent qu'elle habita, éprouvent une grande tendresse pour elle et conservent d'elle un portrait où elles la retrouvent vraiment.
C'est une petite jeune fille qui n'est jamais sortie pratiquement de son village, de Bourgogne, pas très loin d'ici, et qui est entrée directement à presque 24 ans dans son monastère.
Et il lui est arrivé plusieurs fois, avant d'entrer au monastère et même au monastère, de lutter contre le Seigneur, de résister à la grâce.
Et c'est aussi une personne qui a un vrai bon sens, un vrai équilibre humain, comme l'a montré par exemple l'analyse graphologique de son écriture, qui a révélé qu'elle manifestait une stabilité intérieure et un enracinement dans le réel tout à fait particulier.
C'était tellement déconcertant qu'elle me dit « Mais Seigneur, donnez vos grâces à quelqu'un d'autre qu'à moi, je ne peux rien. » Et elle dit « Je t'ai choisi justement pour que l'on comprenne que tout est fait par moi. »
Ses supérieurs savaient qu'elle était une âme choisie de Dieu, mais elle était très humble. Elle se faisait remarquer beaucoup par son humilité et par son obéissance.
Elle était douée pour aimer.
La Providence a mis sur le chemin de Marguerite Marie un directeur de conscience de haut niveau, Saint Claude la Colombière, un jeune jésuite habitué du grand monde. Comme souvent, Dieu agit par l'union spirituelle d'un homme et d'une femme.
Confesseur de Marguerite Marie, à valider, à authentifier la vérité de ces apparitions, mais n'en a pas parlé, ne les a pas du tout rendues publiques, alors même que Jésus demandait un certain nombre de démarches, de, et notamment l'établissement d'une fête liturgique pour toute l'Église. Mais on va les découvrir à l'occasion de la publication de ses œuvres, ou plutôt de ses écrits, que l'on découvre juste après sa mort.
Dans la vision des trois cœurs, Marguerite Marie entend ce message que le Seigneur désire que elle et Claude soient comme des frères et sœurs pour que chacun puisse mener à bien sa mission. Et c'est à travers lui aussi que cette dévotion va se répandre, que cette demande va être connue, sortir du monastère. Il y a tout d'abord une petite oratoire, une chapelle qui vont être consacrées au Sacré-Cœur, la première dans l'église, ici au monastère de la Visitation, et puis par l'effort des jésuites et tous ceux qui vont être touchés par ce message de Paris le Monial, cette demande et cet amour du cœur de Jésus, petit à petit cette demande va se diffuser.
À Paris le Monial, le Christ demande l'amour des hommes, mais aussi l'institution dans la liturgie d'une fête en l'honneur de son cœur.
La foi catholique s'enracine vraiment dans le concret des choses. Le temps liturgique permet de scander la vie de Dieu, la vie même de Dieu, à travers notre histoire ordinaire. Alors, on le sait très bien, si on ne marque pas dans le temps, on ne le fera jamais.
C'est là la vraie originalité, en fait. C'est qu'à travers cette demande d'une fête instituée en l'honneur du Sacré-Cœur, ça va devenir, la dévotion va devenir très populaire. C'est-à-dire qu'elle va rejoindre l'ensemble du peuple chrétien.
Ce que Jésus demande aux hommes est avant tout de se rendre disponible pour le rencontrer. Le lieu privilégié est l'adoration de l'hostie consacrée, présentée dans un ostensoir à des fidèles silencieux, avec qui peut s'engager un dialogue muet. La basilique de Montmartre en est devenue le lieu emblématique.
L'adoration eucharistique est la chose la plus sublime, puisque Jésus est présent sur l'autel ou dans l'ostensoir, dans un ciborium qui le met en valeur, pour pouvoir entrer dans son mystère qu'on n'aura jamais, jamais fini d'explorer. Alors ici, c'est une adoration perpétuelle, qui dure jour et nuit. Elle ne s'arrête pas. On y prie jour et nuit dans ce lieu. Jour et nuit depuis 138 ans. Ça ne s'est pas arrêté. Donc c'est comme un foyer ardent, un phare au milieu de la nuit, un phare au milieu de notre monde, qui éclaire, qui est là pour éclairer ceux qui veulent. On n'impose rien, on n'impose rien.
La spiritualité du Sacré-Cœur, c'est tout de même cette expérience dans la prière, mais dans la vie aussi, qui est cette vie proche des plus pauvres, et bien que Christ est présent. Et donc, on éprouve dans sa vie intérieure cette présence. C'est un temps où on reprend des forces. Et il est indispensable. C'est pour ça que je dis aux gens des fois, prenez 2 minutes en vous réveillant. 2 minutes. Mettez-vous devant la croix, faites silence. Offrez votre journée. Vous n'avez pas conscience des fruits que cela pourra vous apporter.
À la suite des demandes de Jésus, il s'est institué l'heure sainte, pratiquée par exemple au couvent franciscain de Cholet.
J'ai soif, mais une soif si ardente de traiter les hommes aussi simplement que cette soif me consume. Et je ne trouve personne qui s'efforce selon mon désir pour me désapprouver en rendant quelques retours à mon amour. Jésus a saint.
C'est un rendez-vous, comme l'a demandé Jésus, hein, à Sainte Marguerite Marie, donc de 23h à minuit, de prendre ce temps avec lui. Par mémoire aussi de Gethsemane, en fait, le moment où il était seul, en fait, abandonné. Et en fait, c'est pour vraiment montrer que ben, ce Jésus abandonné, ben, on veut être avec lui, quoi.
Cette source qui jaillira de son cœur répandra la foi, lumière et amour dans les cœurs humains. Mais pour la mériter de tels avantages, à Gethsemane, tout comme demain sur la croix, Jésus aura soif.
C'est de vivre avec lui ce moment, en fait, qui est si difficile à vivre et en fait qui continue à vivre en permanence, parce qu'il y a tellement de personnes qui sont bah voilà, qui en fait qui délaisse Jésus quoi, et qui l'abandonne complètement et qui sont loin de lui. Et Jésus lui, il veut justement qu'on soit avec lui quoi. Il y a un désir pour lui de demeurer avec nous.
Ceux qui y vivent, Paray le Monial est à bien des égards un lieu de grâce.
Ici, il se passe quelque chose. Non pas parce qu'on le provoque, mais on le constate. C'est-à-dire qu'il y a une grâce du lieu. Et ce qu'a vécu Marguerite Marie, de reposer sur le cœur de Jésus, d'expérimenter son amour, d'avoir un cœur transformé, de rendre amour pour amour, nous-mêmes, nous l'expérimentons, et les pèlerins l'expérimentent aussi. Comme confiait une mère de famille qui avait tellement souffert depuis la mort de son fils et de son petit-fils, elle disait « Je n'ai aucun endroit où je puis reposer ma tête. Mais en venant ici à Paray le Monial, eh bien, je comprends qu'il y a en fait quelque part où je peux enfin me reposer, c'est sur le cœur de Jésus. »
On peut se demander ce qu'il y a de commun entre le cœur de Jésus-Christ et celui des hommes.
Le cœur, c'est ce qu'il y a de ancré au plus profond de la personne. C'est ce qui définit le plus une personne. Et donc, son cœur, bah, c'est ce qui va pouvoir jouer contre d'autres facteurs qui influencent la personne. La raison, les sentiments, les passions. Voilà. Si, tout ce qu'il y a dans le cœur, tout ce qui est développé au niveau du cœur, bah, ça peut être plus fort que tout.
C'est l'amour qui unifie. Voilà, c'est qui unifie les passions, qui unifie les capacités, qui unifie les sentiments. Hein, comme dit le pape François dans Lumen Fidei, là, ça unifie le corps et l'esprit, ça unifie notre intériorité, l'ouverture au monde, ça unifie aussi l'intelligence, la mémoire et l'affectivité.
Affermir son cœur, convertir son cœur, bah, c'est essayer d'avoir un cœur qui ressemble un petit peu plus au cœur de Jésus.
Quel peut être le sens du cœur de Jésus pour les hommes ?
C'est pas simplement qu'il nous a aimés, c'est qu'il nous montre ce que nous devenons lorsque nous mettons notre foi en lui. De nous laisser transformer en lui, en fait. Comme lui s'est laissé transformer par la présence de l'Esprit en lui. Le grand commandement de l'amour de Dieu et du prochain, je veux pas y arriver tout seul, en fait. Et peut-être qu'on a essayé hein, de y aller tout seul, mais on n'y arrive pas. C'est parce que le cœur du Christ nous est donné que nous pouvons aimer comme lui.
C'est le grand mystère de Dieu. Voilà. Dieu est amour. Dieu, comme dira François Varillon bien plus tard, je dirais comme prédicateur du XXe siècle, Dieu n'est qu'amour. Il ne peut que aimer.
Nous, on ne peut pas avoir de préconception humaine de ce qu'est l'amour, mais c'est lui, Dieu, qui nous dit ce que c'est. Donc de fait, c'est un amour qui nous préexiste et qui s'incarne, qui se révèle à travers toute l'histoire de la Première Alliance et qui s'incarne dans la personne de Jésus et qui se continue dans l'Église.
C'est-à-dire, si nous existons, c'est parce qu'il nous a aimés. Hein, chez les Juifs, le premier acte de miséricorde de Dieu, c'est de nous donner l'existence. C'est-à-dire de nous faire surgir du néant. Le fait d'exister est déjà un acte d'amour de la part de Dieu, qui nous, non seulement nous crée, mais nous maintient dans l'existence.
Ça reste d'abord incompréhensible. L'amour de Dieu pour nous est incompréhensible. Enfin, que nous soyons créés par lui, déjà, est difficile à comprendre, mais c'est un acte de foi. Et que nous soyons aimés, et qu'il nous a aimés jusqu'à nous donner son Fils, son unique, ça reste au-delà de nos prises, j'allais dire. Et donc, ça peut être qu'un sujet d'action de grâce, d'émerveillement, et aussi d'humble acquiescement, vous voyez, à ce que Jésus nous révèle, que l'Église nous transmet depuis 2000 ans.
Non, mon cœur est si passionné d'amour pour les hommes et pour toi en particulier. Et ça, c'est très important parce que Dieu ne sauve pas l'humanité, il sauve chaque homme.
D'abord, ça n'existe pas dans le vocabulaire chrétien. Il n'y a pas l'amour de l'humanité, il y a l'amour du prochain. Voilà, parce que Jésus aime chacun. Donc il y a quelque chose à la fois il y a une dimension communautaire, c'est ensemble que nous serons sauvés, que nous allons vers Dieu, nous avons besoin les uns des autres, et Dieu l'a voulu ainsi, parce qu'il y a une unité du genre humain, mais ce n'est pas une masse informe, c'est un ensemble de personnes qui sont chacune voulues pour elles-mêmes par Dieu, et aimées pour elles-mêmes par Dieu, d'une manière absolument unique.
C'est ce qu'a développé Saint Jean-Paul II dans ses catéchèses sur le corps, c'est que par création, l'homme qui crée l'image et ressemblance de Dieu a été créé par amour et pour l'amour. Et ce qui se manifeste par le fait qu'il est créé homme et femme dans le mariage. Tout homme et toute femme dans le monde a par création une vocation nuptiale. Ce qui veut dire aussi une vocation à l'amour, c'est-à-dire au don désintéressé de soi pour l'autre, duquel peut jaillir un nouveau don qui est celui de l'enfant à naître. C'est ce qui fait que les hommes sont supérieurs même aux anges, parce qu'ils ont cette vocation à s'accomplir dans le don total de leur personne pour Dieu, mais aussi pour l'autre.
Ça vient corroborer avec ce que l'Église ne cesse d'annoncer, c'est que la loi divine par excellence, c'est la fraternité. Cette fraternité, elle est possible grâce, initialement, à une amitié unique. Voilà. Et ce côté unique va permettre de développer une fraternité à l'image de celle du frère universel de Charles de Foucault, vous savez, qui avait ce rêve-là d'être le frère universel.
L'aspect le plus déconcertant, peut-être, dans les révélations de l'Évangile et de Pare l'aumônial, est le caractère inconditionnel de cet amour.
La consolation du Seigneur est un don gratuit de lui-même. Le Seigneur est cette consolation, il est consolation, et il se donne totalement, sans raison, sans mérite de notre part. C'est un amour gratuit.
Dieu ne pose pas de conditions pour nous aimer. C'est parce qu'il aime les pécheurs, non? Ça ne veut pas dire qu'il ne demande rien. C'est-à-dire que ça, c'est son amour vers nous, il est dirigé comme ça pour aller nous chercher. Après, ce qu'il sollicite en nous et ce qu'il suscite en nous, c'est la réponse.
Consentir à être aimé pour rien. Ça, c'est toujours. On a toujours dans nos mécaniques humaines la volonté de dire non, quand même, si je suis aimé, c'est à cause de ceci ou à cause de cela, parce que j'ai quand même cette qualité ou parce que j'ai quand même réussi ceci ou cela. Ça nous travaille en profondeur. Et donc, c'est un travail permanent de conversion, de se laisser atteindre et emporter par cet amour qui seul nous fait vivre. Accueillir cet amour, on pourrait le rejoindre à la devise familiale de Claude Lacolombière, sans réserve.
Il y a toujours, dans notre inconscient religieux, toujours le risque d'essayer d'acheter, de s'acquérir, de se concilier les dons de Dieu. Or, si ce sont des dons, on ne peut pas les acheter. Voilà. L'amour de Dieu est gratuit et finalement, ça ne signifie pas que nous n'ayons rien à donner en retour. Il aime chacun parce qu'il est un enfant bien-aimé, parce qu'il est, simplement.
Mais, comme l'homme a désobéi depuis les origines et qu'il a transgressé l'alliance originelle avec Dieu, eh bien, cet amour, qui de toujours à toujours nous a désirés, en fait, se transforme en miséricorde, c'est-à-dire en amour qui pardonne, qui va au-delà de la justice, pour nous permettre de nous relever là où nous avons péché, là où nous sommes tombés.
La parabole du fils prodigue est peut-être la meilleure illustration de l'amour paternel de Dieu pour les hommes. Un jeune homme réclame de son père son héritage avant l'heure et quitte la maison pour aller tout dépenser à la ville. Puis, ruiné et affamé, il revient lui demander de l'accueillir. Au grand scandale de son frère qui est resté présent, leur père court au-devant de lui et ouvre grand ses bras.
Et Rembrandt, cette magnifique peinture, nous fait contempler le visage du père qui ne cesse, je dirais, qui ne se fatigue pas d'attendre, voyez, et qui est toujours père. Même si on lui a dit 50 fois qu'on ne voulait plus être fils, mais lui, il est toujours père, il se comporte comme un père. Voyez, bon, et le texte nous dit ceci, il le couvre de baisers.
À Pare l'aumônial, les époux Perrier, responsables de l'adoration perpétuelle, sont les parents de 5 garçons.
Nos enfants sont différents, on les aime profondément, peu importe qu'on en ait 1, 2, 3, 4, enfin, c'est pas le nombre qui change l'amour qu'on a finalement, on le voit bien comme parents, donc par ça on touche du doigt cet amour paternel en fait, voilà, c'est notre père, donc il nous aime personnellement de façon unique avec ce qu'on est, avec voilà, nos péchés.
C'est un amour, oui, puis c'est un amour qui se donne sans condition, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des critères à remplir pour mériter l'amour de Dieu. C'est qu'il nous est donné, il est acquis, voilà, par principe,